Radio Chrétienne en Occitanie. Merci à toutes et à tous pour votre belle mobilisation. Et je vous rappelle qu'il n'est pas trop tard pour soutenir Radio Présence. Nous avons besoin de vos dons. Et vous pouvez toujours formuler vos promesses de dons au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Aurélie est au standard pour récolter vos promesses de dons. N'hésitez pas à les formuler. Vous pouvez également le faire en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. Et tout de suite, on s'intéresse à Marthe Robin avec Emmanuel Pella qui est impatient de débuter cette émission en ce lundi.
Le Radio Don.
Radio Don, ça veut dire merci.
Retrouvez toute l'actualité de l'Église régionale sur le site internet de Présence en tapant www.radioprésence.com.
Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Hier, dimanche 27 novembre, a commencé la période de l'Avent, 4 semaines pour se préparer à vivre Noël. Noël, pour les chrétiens, c'est rien moins que la venue de Dieu dans notre monde. Un bien grand mystère dans un pays qui a du mal à croire ne serait-ce qu'à son existence. Alors, au grand mystère, les grands remèdes, et pour entrevoir la profondeur de ce qui se joue, à l'occasion de Noël, je vous propose une émission sur Marthe Robin, une géante de la mystique chrétienne, née en 1902 et morte en 1981, qui comprit Dieu de l'intérieur, si l'on peut dire, et peut nous aider sur ce chemin. Pour parler de Marthe Robin, ce matin, je reçois donc le père Dominique Bostine. Vous êtes responsable du foyer de charité Notre-Dame de l'Assépède, dans le Lot-et-Garonne. Bonjour.
Bonjour.
Et nous allons donc parler de Marthe Robin. Donc, je le disais, il faudrait presque 10 heures d'émission pour parler de Marthe Robin, mais on va essayer de faire ça en une heure, grâce à vous. Et puis, on citera beaucoup au long de cette émission un ouvrage intitulé « Vie de Marthe Robin » du père Bernard Pérousse, qui est donc le postulateur de la cause. On expliquera un peu plus loin dans l'émission ce que ça veut dire postulateur de la cause de Marthe Robin, livre paru aux éditions de l'Emmanuel, en partenariat avec les éditions des foyers de charité. Peut-être avant qu'on parcourt sa vie, qu'on parle des foyers de charité et qu'on parle, que vous développiez un peu sa spiritualité et comment elle peut nous aider à vivre Noël ou à vivre tout court en amitié avec Dieu, si vous deviez nous introduire Marthe Robin, cette géante de la mystique chrétienne, comme je disais, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs ?
Eh bien, je repartirai du mystère de Noël que vous avez évoqué, parce que le mystère de Noël, c'est l'invitation à rentrer dans une relation avec un Dieu qui n'est pas un Dieu lointain, qui est sur les nuages, inatteignable, mais c'est un Dieu qui se fait tout proche. L'enfant Jésus, on n'a pas peur de s'en approcher dans la crèche de Noël. Et cet enfant Jésus désire faire sa vie, pas simplement dans la grotte de la nativité à Bethléem, mais dans la grotte de notre cœur, comme disent les pères de l'Église. Ça, c'est une réalité concrète. Dieu qui vient à notre rencontre et qui est tout proche. Alors Marthe Robin, quand on l'évoque, on a peut-être des clichés qui nous font penser à une grande mystique qui, pour vivre la vie spirituelle, eh bien, a pris des chemins que nous ne pouvons pas prendre. Elle va tellement loin que le mystère de Dieu est inatteignable pour nous. En fait, non, c'est tout le contraire. Marthe est toute proche de nous, elle est des nôtres, et elle a vécu une relation avec le Seigneur qui nous fait comprendre que le Seigneur, on peut le rejoindre dans notre vie quotidienne, dans notre Nazareth à nous, dans notre Bethléem à nous, comme Marthe a pu rejoindre le Seigneur dans sa ferme à Châteauneuf-de-Galaure.
Alors, on va essayer justement de comprendre ça, cet apparent paradoxe, d'une certaine manière, entre un Dieu qui paraît immense et lointain, et puis la possibilité peut-être de vivre en amitié avec lui au quotidien, à l'image donc de ce paradoxe que vous soulignez, qui peut être la première impression qu'on a quand on découvre la vie de Marthe. C'est maintenant ce qu'on va faire. Marthe Robin, je le disais en introduction, elle est née en 1902 et morte en 1980, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous pouvez dire déjà pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire une mystique ? Quand on dit que c'est une géante, une mystique, avant qu'on parle de sa vie, nous redire à gros traits pourquoi on parle d'elle en ces termes ?
Alors souvent, quand on parle de mystique, ça veut dire qu'on n'y comprend pas grand-chose. Or, c'est tout le contraire. Je dirais, notre vie chrétienne, de tout à chacun, c'est une vie mystique, dans le sens que c'est une vie d'union avec un Dieu qui paraît très loin, mais qui se donne à voir, qui se révèle à nous. C'est-à-dire que notre vie chrétienne est une vie mystique, parce que c'est une vie de relation avec notre Dieu. Ce n'est pas nous qui créons Dieu, c'est Dieu qui vit, qui nous a créés et qui vient à notre rencontre. Eh bien, notre vie chrétienne, c'est une vie qui dépasse infiniment ce qu'on peut vivre dans notre vie quotidienne et qui, cependant, vient nous rejoindre dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que la vie mystique, c'est une vie chrétienne, une vie d'union à Dieu. Alors parfois, certaines personnes, certains saints, ont vécu des choses que nous n'arriverons jamais à vivre, mais ils nous montrent en même temps le chemin, la direction pour vivre l'union à Dieu.
Alors cette union à Dieu, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Si on doit commencer par le début, donc elle naît donc à Châteauneuf-de-Galaure, donc dans la Drôme, et elle naît dans une famille paysanne, assez simple, pauvre presque, on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de cet environnement et de cette époque ?
Voilà, donc Marthe est née dans une ferme dans la vallée de la Galaure en 1902, et puis donc une petite famille, enfin il y avait tout de même 6 enfants, une ferme de 13 hectares. Les parents ont travaillé très dur, hein, à la fois pour élever les enfants et puis pour vivre simplement dans un contexte qui était très difficile. Marthe a reçu une éducation normale, puisqu'elle a été jusqu'au certificat d'études. Elle n'a pas pu passer l'examen parce qu'elle était malade à ce moment-là, mais elle a continué ses études au-delà de la période du certificat d'études, ce qui montre que tout de même, c'était une personne intelligente et qu'on comptait sur elle. Ensuite,
quand vous dites une éducation normale, c'était une éducation aussi de la campagne du début du siècle dernier. C'était une éducation assez, assez rude, assez exigeante, si j'ai bien compris.
Voilà, assez exigeante. Bon, les professeurs étaient exigeants pour les enfants. Et puis, quand Marthe n'était pas à l'école, eh bien, elle participait aussi au travail de la ferme pendant les temps des vacances ou quand même étant malade. Elle faisait les petits travaux de la ferme, tout au moins ce qu'elle pouvait faire. Voyez.
Est-ce qu'on peut dire un mot aussi de ses parents, qu'ils étaient, et puis peut-être dans quel environnement de foi elle a grandi ?
Alors, ses parents n'étaient pas particulièrement pratiquants. Disons qu'ils allaient aux liturgies, au moment des grandes fêtes. Mais tout de même, le papa avait mis, quand il a repris la ferme, il avait mis une croix sur la porte d'entrée de la ferme, ce qui est tout de même assez exceptionnel à ce moment-là. On est tout de même dans une région qui est marquée par l'anticléricalisme d'une manière très, très, très forte, et pas simplement la région, mais à l'époque, il y avait tout de même un mouvement antichrétien qui était très fort. Il y avait une loge maçonnique qui était à Châteauneuf-de-Galaure même, et puis la pratique religieuse avait beaucoup baissé. Il y avait un combat très fort, on peut dire, contre l'Église à ce moment-là. Alors Marthe est née dans ce contexte-là, vous voyez.
Alors Marthe, dès sa prime jeunesse, connaît la maladie. Ça commence en 1903, où la famille est touchée par la fièvre typhoïde. Il y a même un des enfants, un de ses frères et sœurs, une certaine Clémence, qui décède. Et Marthe tombe malade elle-même, et elle en restera fragile toute son enfance. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du début de l'entrée de la maladie dans la vie de Marthe ?
Oui, alors effectivement, donc la fièvre typhoïde a atteint Marthe, ce qui l'a rendue très, très fragile. Et puis, durant l'été 1918, donc Marthe a 16 ans à ce moment-là, elle commence à avoir un mal de tête persistant, elle est prise de fièvre, de vomissements, et à la fin de cette année, elle s'effondre dans la cuisine, et comme elle l'a dit, demandant un médecin à grands cris. Alors les médecins l'examinent, on pense à une tumeur cérébrale, la situation s'aggrave, Marthe tombe dans le coma, on la croit perdue, on lui donne le sacrement des malades, et elle va rester dans une sorte d'état léthargique qui va durer presque 27 mois, ce qui est tout de même considérable. La famille ne comprend pas ce qui se passe, et quand elle revient un peu à elle, en tout cas, il y a comme une forme de maladie évolutive qui s'installe, maladie qui n'a pas été diagnostiquée à ce moment-là. Maintenant, on sait que c'était sans doute une encéphalite von Economo qui a donc amené une paralysie progressive des membres, pendant une dizaine d'années, de l'âge de 15 ans à l'âge de 25 ans. À l'âge de 25 ans, elle sait qu'elle ne pourra plus marcher. Et puis ensuite, cette paralysie atteint les voies digestives, qui fait qu'elle ne pourra plus, progressivement, ne pourra plus manger. Et puis, cette paralysie touchera ensuite le nerf optique, ce qui fait qu'en 1939, à partir de 1939, disons, elle ne verra pratiquement plus, ce qui fait qu'elle restera même dans une chambre obscure avec un tout petit rayon de lumière qui passera entre les volets entrebâillés, parce qu'un rayon trop fort lui faisait perdre connaissance.
Alors, quand on lit la vie de Marthe, on lit cette maladie, en fait, on a l'impression d'une lente descente aux enfers, si je peux me permettre l'expression, dans une émission sur Marthe. Elle souffre elle-même énormément et elle se révolte. Elle vit évidemment cette maladie, cette reclusion de manière très difficile, d'autant que sa famille n'est pas toujours, semble-t-il, très... très très tendre avec elle. Entre autres, j'ai trouvé donc ce passage dans La vie de Marthe Aubin du père Bernard Pérousse aux éditions de l'Emmanuel, où elle parle de son père. « Pauvre malheureux père, je le plains de tout mon cœur d'être vraiment si dur. Il est vrai que depuis 5 ans que je suis malade, il ne s'en est pas tourmenté plus que pour son chien, mais peut-être... et puis elle continue, etc. » Enfin, le début de sa vie, c'est quand même... quand on lit ça, c'est alors, terrifiant presque. Hein, c'est...
Oui, alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein, dans une ferme où les bras qui sont là sont utiles pour le travail de la ferme. Tout le monde est utile dans une famille comme cela. Marthe était très aimée de son papa. Et justement, quand elle parle de sa petite enfance, elle est toujours touchée en parlant de son père, qui l'appelait ma petite Mimi. Enfin, on sentait qu'il y avait une affection très grande entre les deux. Mais à partir du moment où Marthe est tombée malade, où on n'arrivait pas à la soigner, où sa maladie était un peu comme un mystère aussi, il n'y avait pas la sécurité sociale non plus à cette époque, donc c'était pas rien de trouver les médicaments qu'il fallait. Et donc, ne sachant pas trop comment faire, dans le milieu ambiant aussi, on parlait beaucoup d'hystérie, on s'est dit, mais c'est une femme qui est hystérique, etc. Bon. Et donc, ça mettait le papa mal à l'aise, tout cela. Voyez. Donc, il y a une petite distance qui s'est créée, bien malgré Marthe, hein, c'est ainsi. Et ensuite, le papa est revenu dans de bien meilleures considérations vis-à-vis de sa fille. Mais il y a une période difficile, effectivement.
Alors, au long de cette maladie qui s'installe, en fait, dès son adolescence, on va dire que c'est une grande malade, enfin, au sens propre, il y a donc un chemin intérieur. Alors, ce chemin intérieur avait, semble-t-il, commencé assez tôt, puisque quand on lit cette biographie, elle dit elle-même que dans son enfance, elle sentait le bon Dieu. Voilà. Donc elle a eu très tôt une grâce particulière, enfin la grâce de la foi, et puis une vraie vie de relation avec le Seigneur.
Oui. Alors il faut bien se dire que ce n'est pas une vie extraordinaire, cette vie de l'enfance, parce que quand on parle aux enfants de la vie de Jésus, d'une vie de foi, de relation avec le Seigneur, ils sont touchés. Et Marthe, dans son enfance, a vécu ce que d'autres enfants de notre époque peuvent vivre si on leur donne un minimum, je dirais, d'orientation, d'enseignement. Ce qui fait que sa vie spirituelle s'est développée d'une manière normale dans son enfance. Elle parlait, comme elle le disait elle-même, elle avait une relation forte avec la Sainte Vierge, elle lui parlait très simplement, en marchant, en gardant les troupeaux, en allant à l'école. Voilà. Mais rien d'extraordinaire, c'est la vie spirituelle des enfants de cette époque et d'aujourd'hui aussi, si on leur ouvre au mystère de la vie de Dieu.
Alors, on va pas tarder à faire une première pause et puis on prolongera ce parcours, le parcours de la vie de Marthe. Mais vous dites qu'il y a quelque chose d'assez naturel. Toujours est-il qu'elle a, au cœur de sa maladie, petit à petit se développe pour le coup une vraie vie mystique qui, elle, est assez extraordinaire. Et entre autres, je citerai, je ne sais pas si vous auriez commencé par là, une apparition qu'elle aurait eue donc de la Vierge Marie en mai 1921. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce début de l'entrée de l'extraordinaire de Dieu dans la vie de cette femme?
Début 1921, donc Marthe a 19 ans, et effectivement, donc la Sainte Vierge lui apparaît à ce moment-là, puis il y aura d'autres apparitions par la suite. Dans la période où elle était dans le coma aussi, ces 27 mois de vie léthargique aussi, la petite Thérèse lui a apparu trois fois aussi.
Donc Thérèse de l'Enfant Jésus,
mais là on peut dire qu'elle n'est plus dans la petite enfance, hein. On peut dire qu'elle entre, elle progresse, hein, aussi dans la vie spirituelle. Et le combat qu'elle a eu à mener contre la maladie l'a purifiée aussi, ce qui fait qu'elle a eu un corps très disponible, très, très ouvert, et après elle a fait des pas de géant.
Alors, je vous arrête juste parce que on a probablement une partie de nos auditeurs pour qui c'est peut-être du chinois de dire qu'une femme donc du siècle dernier qui était malade a une apparition donc de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, faut rappeler, enfin, c'est aussi une grande sainte de l'Église catholique donc du siècle dernier, c'est ça, hein, qui est mort au début du XXe siècle, si je ne me trompe pas.
Oui, oui.
Voilà. Et donc de la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on quelqu'un a eu une apparition, et est-ce qu'on peut l'authentifier, parce que certains pourraient se dire c'est la preuve qu'elle était de fait hystérique.
Alors, donc, c'est vrai que les apparitions, bon, ça fait partie, pour ceux qui ne connaissent pas trop du merveilleux, bon, on n'est pas obligé d'avoir une apparition pour bien cheminer dans la vie spirituelle. Mais certaines personnes sont favorisées par cela. Il y a une multitude de saints qui ont pu avoir des apparitions en ce sens. Bon, si on n'en a pas, je ne peux pas vous dire pourquoi. Ça, c'est de l'ordre du Seigneur qui le décide comme il le veut. Mais notre vie normalement, se passe en dehors de tant d'apparitions, et on peut vivre une vie spirituelle très profonde sans avoir cela. Marthe a bénéficié d'apparitions particulières, peut-être parce qu'elle avait une mission particulière, tout à fait originale.
Mais qu'est-ce qui authentifie le fait que ces apparitions soient, comment dire, qu'elles disent vrai? C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne sais pas, il y a des prêtres justement qui l'accompagnent dès cette époque, ou qui certifient qu'elle n'est pas folle.
Voilà, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Une apparition ne doit pas nous donner ensuite une personne qui est tout à fait déséquilibrée ou autre. Non, Marthe est restée dans un équilibre absolument parfait d'un bout à l'autre de sa vie. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, on peut dire. Cette simplicité de vie, alors qu'elle a eu effectivement l'apparition de la Vierge. Il faut savoir qu'ensuite, lorsque Marthe est rentrée dans une expérience de la Passion chaque semaine, la Sainte Vierge était à côté de Marthe chaque semaine, au moment où Marthe entrait dans la Passion. Vous voyez.
Avant de faire cette pause promise, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Au cœur de cette maladie, Marthe, à un moment, pose un acte d'abandon en 1925. Donc, elle a souffert énormément de sa situation, de cette maladie. Elle avait l'impression que sa vie n'avait pas de sens. On a connu même des périodes de désespoir. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de son cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est?
Alors, donc, la caractéristique de cette maladie, c'est qu'il y avait des avancées et des reculs continuels. Donc, progrès dans l'ordre de la santé, et puis rechute. Donc, ça veut dire que confiance, on va s'en sortir, et puis brutalement, clac, tout paraît fermé. Voilà. Et donc, des vagues comme ça de flux et de reflux continuels pendant une dizaine d'années, jusqu'à cette paralysie en 1925. Et donc, espérance, grande confiance, et en même temps, trouble intérieur. Elle voulait rentrer au Carmel, elle ne pouvait pas à cause de sa maladie. Donc on savait que depuis sa toute petite enfance, elle avait déjà une vie spirituelle profonde. Donc il y avait aussi un combat profond dans l'ordre de la vie spirituelle. Qu'est-ce que veut le Seigneur pour moi? Elle voulait se donner totalement. Et elle ne pouvait pas, elle était dans sa chambre de Châteauneuf-de-Galore. Et c'est là où, finalement, elle s'est dit, je ne peux pas me donner en rentrant dans un Carmel, mais je peux donner ce que j'ai. Or, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma maladie, j'ai mon lit, j'ai les quatre murs dans lesquels je suis, et puis ma famille, etc. Bon, les gens qui viennent me voir, tout cela, je peux l'offrir au Seigneur. Et donc, il y a eu un acte d'abandon dans le sens qu'elle a dit, j'abandonne tout au Seigneur, je lui donne tout. Je peux pas tout donner pour rentrer au Carmel, mais je peux donner ce que j'ai et ce que je suis. Et c'est là où, en 1925, à la suite de multitudes d'actes d'abandon que d'autres personnes ont pu faire, comme la petite Thérèse, elle a fait aussi un acte d'abandon. On peut dire qu'elle s'est inspirée de l'acte d'abandon de la petite Thérèse et d'autres personnages. Elle a rédigé son propre acte d'abandon. Elle a dit au Seigneur, je te donne tout. Ça, c'était le 15 octobre 1925, qui est une date aussi anniversaire de l'acte d'abandon de la petite Thérèse.
l'Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission sur Marthe Robin, et j'avoue que j'ai pas su quoi mettre derrière, tellement c'est quelqu'un de, d'impressionnant. Donc, je me suis dit que le mieux c'était de titrer de manière aussi simple. Et je vous rappelle que nous sommes avec le père Dominique Bostine, qui est responsable du foyer de charité de Notre-Dame de l'Acépède, dans le Lot et Garonne, et qui nous fait parcourir la vie de cette grande mystique. Et je vous rappelle aussi le titre de l'ouvrage qui nous sert un peu de fil rouge, Vie de Marthe Robin, du père Bernard Peyrousse, paru aux éditions de l'Emmanuel, en partenariat avec les éditions des foyers de charité. Alors, vous avez commencé à nous introduire dans cette vie mystique, et vous teniez à souligner le fait que cette bascule, donc cet acte d'abandon que Marthe pose, tient aussi à une mission paroissiale qui a eu lieu donc à Châteauneuf-de-Galaure et à la rencontre d'un certain capucin, le père Marie Bernard.
Et en fait, donc, Marthe s'est donnée dans cet acte de consécration en 1925, mais il y a une période ensuite où elle se donnait et en même temps, eh bien, elle se donnait pas totalement. C'est-à-dire qu'elle voulait vraiment profiter des biens de ce monde, c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait logique. Elle voulait aller au bal, elle voulait danser. Alors, bon, elle pouvait pas, mais elle disait « ma santé ira mieux », donc voilà. Donc, elle avait tout de même un petit peu un cœur partagé, bon... Vouloir être carmélite, ça veut dire s'engager totalement à la suite du Christ. Et on sent donc qu'il y avait un petit va-et-vient quand même au niveau de sa vie intérieure. Et c'est là où tout bascule en 1928, c'est qu'elle est totalement saisie par le Seigneur à la suite d'une mission paroissiale qui a lieu par ces fameux deux capucins qui viennent début décembre.
C'est quoi une mission paroissiale,
Alors, une mission paroissiale, à ce moment-là, consistait... en des temps d'enseignement, des temps liturgiques qui étaient donnés pendant environ 3 semaines par un ou deux prêtres qui venaient de l'extérieur pour revitaliser la communauté chrétienne. Et donc le curé de la paroisse voulait redynamiser sa communauté, donc il a fait venir ses capucins, là, bien simplement. À ce moment-là, ça se faisait souvent.
Et ce qui est intéressant à noter, c'est que eux considéraient que cette mission était un peu ratée, en fait.
Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'effet à cette mission, mais à la fin de la mission, les capucins sont allés voir les personnes qui n'ont pas pu se déplacer parce qu'ils étaient malades, et donc ils sont allés voir Marthe. Il faut savoir que entre Marthe et le curé de la paroisse, le courant passait pas tellement bien. Parce que Marthe avait tout de même une vie spirituelle un petit peu spéciale, et le curé avait du mal à la comprendre. Donc il a laissé un petit peu de côté. Et c'est alors que les deux capucins ont découvert le cœur profond de Marthe et ont dit ensuite au curé, mais là vous avez une paroissienne absolument exceptionnelle. Et le curé de la paroisse...
Quand même dit, vous avez une grande sainte là-haut.
Voilà, c'est ça.
En et donc, descendant de sa chambre.
Tout à fait, oui. Et donc là, le curé a viré sa cutie, on peut dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc les deux capucins voient Marthe. Marthe se confesse à ce moment-là. Et puis, très rapidement après, elle communie. Ça a été une rencontre très forte avec le Seigneur, au travers de ces deux sacrements. Et puis, sans doute que les capucins ont pu expliquer à Marthe ce que François d'Assise vivait. C'est-à-dire François d'Assise qui, dans la souffrance aussi, a offert toute sa vie pour le salut de ses frères. Et donc, Marthe est rentrée dans cette perspective. Marthe a mieux découvert le mystère de la croix que François d'Assise a vécu jusque dans sa propre chair, on peut dire. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris que sa vocation sur son lit de malade sera d'offrir, comme François d'Assise a pu offrir aussi toute sa vie pour la rédemption du monde, pour le salut du monde.
Et alors, on y reviendra, hein, pour ceux qui comprennent peut-être pas tout à fait ce que ça veut dire, mais allez-y, continuez.
D'accord. Et on peut dire à ce moment-là que c'est l'entrée dans une vie spirituelle beaucoup plus profonde d'union au Seigneur. Elle a compris aussi que Jésus l'a rejoint d'une manière très forte dans sa vie de malade. Non pas qu'il faille monter une échelle pour rejoindre le Seigneur, mais c'est tout le contraire. C'est le Seigneur qui descend l'échelle pour nous rejoindre. Et le mystère de l'incarnation, c'est ça. C'est Jésus qui nous rejoint dans notre vie quotidienne de chaque jour, dans nos activités concrètes. Et l'activité concrète de Marthe, qu'est-ce que c'était? C'était l'inactivité sur son lit de malade. Et Marthe a compris que là où elle était, Jésus était avec elle. Elle a vécu d'une manière plus forte grâce aux deux sacrements qu'elle a vécu, qui ont été une rencontre nouvelle, forte avec Jésus. Il faut savoir qu'à ce moment-là, On ne se confessait pas aussi souvent, on ne communiait pas aussi souvent qu'on peut le faire aujourd'hui. Donc on recevait les sacrements avec une préparation un peu plus grande aussi, un peu plus forte aussi. Et donc on peut dire qu'à ce moment-là, Marthe a fait un nouveau pas dans l'ordre de la vie spirituelle. Elle a compris qu'elle pouvait offrir ses souffrances de malade, offrir toute sa vie en union avec la grande offrande de Jésus qui offre sa vie pour le salut du monde. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est servie de sa maladie, elle s'est servie de ses journées, de tous les moments de sa journée. Elle a dit « Seigneur, je t'offre tout cela pour que toi tu t'en serves ». Et c'est à ce moment-là que Marthe a eu une fécondité absolument extraordinaire et qu'elle a commencé à recevoir énormément de personnes.
Alors justement, on va peut-être pas détailler toute la suite de sa vie, même si là on est en 1928 et qu'elle est, elle est morte en 1981. Mais derrière, c'est une vie, justement, une vie d'union à Dieu, une vie mystique absolument, enfin, confondante. Est-ce que vous pouvez, à gros traits, nous dire quelle a été cette vie mystique, et peut-être nous en expliquer, si c'est pas le sens, enfin, nous donner quelques clés qui puissent ne pas nous effrayer.
Voilà. Alors. Marthe est d'abord une baptisée, et c'est ça qu'il faut retenir, comme chacun d'entre nous. Alors le baptême, qu'est-ce que c'est ? Le baptême, c'est cette invitation à vivre avec Jésus, et à faire toutes choses par lui, avec lui et en lui. Notre bonheur, il est là, finalement. Et notre bonheur, nous avons à le vivre dans ce monde, dans des difficultés qui peuvent être parfois pas faciles à vivre. Et Jésus nous rejoint dans ces difficultés. On n'est pas seul, il est avec nous. Marthe en a fait l'expérience très forte, que Jésus est avec elle. Donc elle a fait la découverte que sa vie de baptisée a un sens absolument extraordinaire. Et à partir de là, elle a compris aussi, en rentrant davantage dans les sentiments du cœur de Jésus, dans cette union qu'elle avait avec Jésus, que Jésus ne souhaitait qu'une chose, c'est le bonheur pour l'ensemble de l'humanité. Et que ce bonheur, il n'est trouvé que dans la mesure où on reprend l'axe de notre vocation filiale, qui est notre vocation fondamentale. Le baptisé, c'est celui qui veut vivre aussi en fils ou fille bien-aimée du Père. Voilà, l'épanouissement, il est là. Et donc, Marthe, rentrant dans les sentiments du cœur de Jésus, a compris que Jésus voulait ramener cette humanité dans la maison du Père, dans l'axe de la relation filiale. Et c'est ainsi qu'elle a compris aussi que Jésus voulait que des personnes travaillent avec lui pour ramener cette humanité qui n'a plus de sens, qui va dans toutes les directions, dans la bonne direction pour que cette humanité retrouve son épanouissement profond. Voilà. Donc ça, c'est la vocation de Marthe, mais c'est la vocation de tout baptisé. Tout baptisé est invité à entendre la parole de Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde » et qui renvoie l'ascenseur, qui dit « Mais vous êtes, vous, la lumière du monde. » Et c'est nous qui devons porter ce monde, donner sens, on peut dire, à la vie de ce monde. Marthe l'a compris et elle a voulu travailler avec Jésus à ramener le monde dans la bonne direction.
Alors cette vie mystique, malgré tout, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Puisque donc cette femme était stigmatisée, elle a eu des extases, elle revivait la passion du Christ, elle a eu des visions, elle avait le don de lire dans les cœurs, etc. etc.
Alors, je dirais, dans la mesure où nous sommes invités à rentrer dans une communion avec Jésus, ça peut aller très loin. Tout le monde ne vivra pas ce que Marthe a vécu. Mais nous sommes tous invités à vivre l'union au Christ.
Alors juste, ce qu'elle a vécu, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire en fait, quand on dit que quelqu'un qui est stigmatisé, qui revit la passion du Christ, qu'est-ce que ça veut dire
Donc concrètement, Marthe voulait être comme Jésus. Finalement, c'est ce que saint Paul a vécu. Il disait, je veux être comme Jésus. Et à un moment donné, il dira, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous sommes configurés au Christ. Ça, c'est le baptême. C'est-à-dire que nous sommes comme d'autres Christ. Nous sommes invités à reproduire la vie de Jésus au cœur de ce monde. Voyez. Or, pour certaines personnes, comme pour Marthe, reproduire la vie de Jésus, ça veut dire, ça a voulu dire, pour elle, aussi être tout à fait comme Jésus dans le mystère pascal. Voyez. À un moment donné, Jésus lui apparaît et lui dit « Veux-tu être comme moi ?» C'était le grand désir de Marthe, qui avait, au cours de la mission paroissiale, peut-être pénétré davantage le mystère de la croix, par les capucins qui sont venus rencontrer Marthe, et qui ont parlé sans doute de saint François d'Assise, comment la croix porte le monde, voyez, comment le cœur de Jésus en croix est le grand amour pour toute l'humanité. Et donc, sacrement de la réconciliation, c'est la croix de Jésus. C'est l'expression de la miséricorde de Dieu sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la communion que Marthe a vécue en 1928 dans cette mission, c'est la rencontre avec le cœur de Jésus en croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc Marthe est rentrée dans une conformité, on peut dire, à ce que le Christ a vécu en croix. C'est ainsi que Jésus lui apparaît, nous sommes en 1930, et lui dit « Veux-tu être comme moi ?» C'était le grand désir du cœur de Marthe. Et Marthe a dit « Oui, bien sûr. » Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la stigmatisation.
Alors stigmatisation, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, en fait, donc ça veut dire que, bon, il y a d'autres saints qui ont vécu cela, comme le Padre Pio, comme François d'Assise et tant d'autres, hein. Eh bien, ça veut dire qu'il y a comme des... Ça se passe différemment selon les saints, mais là, il y a eu des rayons lumineux qui sont partis du cœur de Jésus, qui apparaît à Marthe, et qui ont venu frapper les mains, les pieds et le côté de Marthe. Et Marthe a été stigmatisée, c'est-à-dire qu'elle a reçu les mêmes plaies que Jésus a eues au cours de sa passion. Et Marthe a revécu la passion chaque semaine. Alors là, c'est tout à fait l'originalité de Marthe. Je crois qu'aucun saint dans toute l'histoire de l'Église n'a vécu ainsi pendant 50 ans la passion chaque semaine. C'est-à-dire que chaque jeudi soir, Marthe revivait ce que Jésus a vécu depuis le Cénacle à Jérusalem, en descendant ensuite à Gethsémani, et puis l'arrestation, la passion de Jésus, la crucifixion, la mort sur la croix. Donc elle a vécu cela chaque jeudi soir, chaque vendredi, et elle entrait dans un état de mort apparente le vendredi vers 15h de l'après-midi, et rester dans cet état jusqu'au tout début, jusque le samedi soir, puis jusque le dimanche, et le lundi, dans les dernières années de sa vie.
Alors, vient tout de suite une question quand vous dites ça. Enfin, il en vient une multitude, évidemment. En tout cas, moi, il m'en vient une. Il est décrit dans ce livre, donc « Vie de Marthe Robin » du père Bernard Pérousse, paru aux éditions de l'Emmanuel, des passages où le père Finet, qui était donc son accompagnateur spirituel, décrit ce qu'on pouvait voir de l'extérieur de ces moments où elle revivait la passion. C'est vrai que c'est ne serait-ce qu'à la lecture, c'est très très impressionnant. Qu'est-ce que vous diriez pour ceux qui, et probablement ils sont nombreux, même parmi les croyants, qui s'interrogent sur entre guillemets, la nécessité, si je peux me permettre, de faire vivre ça à un mortel? C'est-à-dire que quand on est chrétien, on se dit que le Christ a vécu ça et qu'une fois pour toutes suffit. En quoi a-t-il besoin
Alors, Marthe est un signe pour le monde. Parfois, on a besoin de signes qui nous réveillent. Lorsque Monseigneur Marchand a présenté le père Finet...
Qui est-ce Monseigneur Marchand, juste?
Alors, Monseigneur Marchand, c'était l'évêque de Valence, donc l'évêque de Marthe aussi, et du père Finet, qui a commencé les foyers de charité en 1936 avec Marthe. On pourra reparler du début des foyers. Eh bien, lorsque Monseigneur Marchand a présenté le père Finet au pape Jean-Paul II, qui est passé dans la région à ce moment-là, à Genève, je crois, Jean-Paul II a dit « Ah, le père Finet, vous êtes le père spirituel de Marthe ». Marthe, je la connais. Marthe, c'est la rédemption, c'est tout le mystère de la rédemption pour notre monde aujourd'hui. C'est-à-dire que Marthe a revécu ce mystère de la rédemption du Christ, que le Christ a vécu une fois pour toutes, mais chaque semaine, c'est comme une lumière pour nous rappeler que nous, baptisés, nous sommes invités à vivre le mystère pascal. Qu'est-ce que c'est que le mystère pascal dans notre vie de baptisé? C'est accepter de mourir au vieil homme, comme on dit, c'est-à-dire à tout ce qui est indigne de notre condition humaine, hein, et qui nous abîme fondamentalement, d'accepter de renoncer à cela pour embrasser au contraire une plénitude de vie et d'amour. Notre bonheur, il est là. Donc mourir au vieil homme pour renaître à une vie nouvelle. C'est ça le baptême. Plonger dans les eaux du baptême, c'est j'accepte de mourir au vieil homme pour renaître à cette vie d'enfant de Dieu et embrasser cette vie dans sa totalité.
Mais c'est vrai, quand on voit la vie de Marthe, enfin, on prend peut-être plus conscience de la radicalité,
voilà,
de ce que veut dire cette mort, en tout cas.
Oui, mais nous ne vivrons pas la passion de cette manière-là, comme Jésus l'a vécu ou comme Marthe l'a vécu, mais en même temps, on est invité à vivre ce qui nous abîme, à renoncer à ce qui nous abîme, voyez, pour au contraire embrasser ce qui nous épanouit. C'est ça le bonheur, finalement. Le bonheur, il est là. Et Marthe, elle était profondément heureuse. Marthe, parfois on l'entendait dans des éclats de rire absolument extraordinaires. Marthe était remplie d'humour, vous voyez. Le premier livre qui a été écrit après la mort de Marthe a été écrit par un prêtre de son diocèse qui n'avait jamais rencontré Marthe, mais qui était journaliste, et qui a fait une enquête, et il a donné comme titre à ce livre « La croix et la joie ».
Alors, on a parlé plusieurs fois des foyers de charité, c'est-à-dire qu'au cœur de, cette vie mystique, Marthe aurait eu même pas l'intuition, c'est-à-dire qu'il lui aurait été demandé directement par le Christ de fonder les foyers de charité. Donc, foyers de charité qui existent aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Vous me disiez en préparant l'émission qu'il y avait à peu près 80 foyers dans le monde, une quinzaine en France et 65 à l'étranger. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui se donnent entièrement à Dieu pour accueillir tout à chacun pour des temps de retraite, pour faire très très court. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette intuition des foyers de charité? Comment ça s'est passé?
Oui. Donc, c'est en 1930, il y a la stigmatisation, et en 1933, donc Jésus continue d'apparaître à Marthe, hein, à partir de la stigmatisation, il faut bien comprendre cela, hein, régulièrement, puisqu'elle vit la passion chaque semaine. Mais en 1933, Jésus annonce à Marthe la création, le désir de créer ce qu'il appelle la grande œuvre de son amour. Il annonce aussi à Marthe une nouvelle Pentecôte, d'amour pour le monde entier, comme au premier temps de l'Église. Et il dit que les laïcs, c'est-à-dire les baptisés, vont reprendre conscience de leur vie baptismale et de leur vocation de témoins et d'apôtres au cœur du monde. Il faut bien savoir qu'à cette époque, l'Église reposait beaucoup sur les clercs, hein, c'est-à-dire sur les prêtres. Il y avait beaucoup de prêtres dans les paroisses. Bon, c'est eux qui étaient un petit peu les chefs d'orchestre de toute la vie de l'Église. Or, les porteurs de la vie de l'Église, c'est d'abord le baptisé. Et donc, Jésus annonce à Marthe la création des foyers de charité, la grande œuvre de son amour, pour permettre à des laïcs, à des baptisés, de venir dans des centres de formation et au cours de ces retraites d'une semaine, recevoir, on peut dire, l'essentiel des tenants et des aboutissants de la vie chrétienne, de manière à pouvoir être témoin et apôtre au cœur du monde. Voilà, c'est le désir du cœur de Jésus manifesté à Marthe.
Donc on appelle ça des retraites fondamentales, je crois, la plupart du temps. Et il y a une particularité, c'est que c'est des retraites en silence. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la genèse de silence qui a, ça a surpris. Je crois que son accompagnateur spirituel disait, mais attends, faire des retraites de 5 jours en silence, personne ne va venir. C'est...
Comment garder en silence pendant 5 jours ainsi? C'est vrai que... Alors, en fait, quand on entre dans le silence, ça se vit très très bien, parce qu'on se rend compte que notre cerveau, notre cœur est habité par une multitude de paroles, d'agitations, etc. Et quand on arrive à taire cela, eh bien, on arrive à une profondeur, et au cœur de ce silence, on entend d'autres paroles dans le murmure de la brise légère, comme le Seigneur le disait au prophète Élie. Hein. Eh bien, c'est là où on entend le Seigneur nous parler, nous faire signe. Voilà. Et on découvre le vrai sens de notre vie. On découvre alors que dans notre vie naturelle, notre vie quotidienne, cette vie est habitée par l'extraordinaire de la vie de Dieu. Voyez. Alors, pourquoi le silence? Eh bien d'abord parce que la Sainte Vierge l'a demandé. L'a demandé clairement à Marthe, a demandé que les retraites aient lieu en silence. Et puis, la Sainte Vierge a dit aussi, il faut 5 jours pour une retraite. Parce qu'on ne change pas un cœur en 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il faut rentrer dans l'intériorité.
Thank you.
Présence dans le Luchonnet, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission sur Marthe Robin. Si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes avec le père Dominique Bostine, qui est responsable du foyer de charité Notre-Dame de l'Acépède dans le Lot-et-Garonne, et que, au cours de cette émission, nous inspirons beaucoup d'un ouvrage intitulé « Vie de Marthe Robin » de Bernard Peyrousse, paru aux éditions de l'Emmanuel et éditions des foyers de charité. Alors, en cette fin d'émission, avec vous, après avoir parcouru la vie donc, de cette grande sainte, de cette grande mystique, dit un mot aussi donc, de ce que sont les foyers de charité, je voulais avec vous reparcourir quelques-uns des thèmes qu'on a évoqués, mais peut-être trop rapidement, entre autres donc celui de Noël. Donc je le disais en introduction, c'est vrai que l'Avent a commencé hier, donc ce temps de préparation au mystère de Noël pour les chrétiens, de 4 semaines. Et c'est vrai que de prime abord, la vie de Marthe Robin, avec ce mystère de ses stigmates, cette femme qui a revécu la passion chaque semaine pendant quoi, presque 50 ans, c'est ça?
Oui.
Bon, on pense évidemment davantage à Pâques. En quoi Marthe Robin, hormis... la profondeur du mystère de sa vie et peut-être celui de l'incarnation peut nous parler de Noël, et si elle nous parle de Noël, qu'est-ce qu'elle peut nous dire de ce mystère qu'on se prépare à vivre.
Alors Noël, c'est Dieu avec nous, hein. L'Emmanuel, Dieu parmi nous. L'Emmanuel, c'est le sens du nom même de Jésus, ça veut dire Dieu avec nous, et donc il continue d'être avec nous. Il n'est pas simplement venu il y a 2000 ans, et puis après retourné auprès de son père, il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et nous sommes invités dans notre vie quotidienne, dans notre Nazareth à nous, dans notre Bethléem, dans notre Capharnaüm à nous, à découvrir combien Dieu est à nos côtés. Marthe en a fait l'expérience concrète, et tous ceux qui ont rencontré Marthe, elle a reçu plus de 100 000 visiteurs, et je suis de ceux-là, et je sais combien je dois à Marthe.
Vous l'avez connue, donc, vous ?
Oui, j'ai pu la rencontrer plusieurs fois, effectivement, oui. Et à chaque fois, eh bien, Marthe nous aide à nous replonger dans notre vie quotidienne, ordinaire, et à découvrir que dans cette vie quotidienne, Dieu est là et nous accompagne. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et ça change tout, vous savez. Ça change tout dans une vie. Ça donne sens à une vie.
Alors, pour ceux qui nous écouteraient et qui auraient persévéré, on va dire, jusqu'à maintenant, je pense, entre autres, aux gens qui peut-être n'ont pas spécialement la foi ou ceux qui ne croient pas, comment on peut faire, qu'est-ce que vous leur diriez pour... vous me direz, très vaste question, mais si on se sent un peu interdit devant la vie de cette sainte ou un petit peu interdit quant à la manière justement de commencer cette vie mystique que vous décrivez, qui peut être simple et ordinaire, qu'est-ce que vous leur diriez? Comment on peut commencer ce chemin?
Bah d'abord peut-être en
venant faire une retraite en foyer de charité, vous me direz.
Alors peut-être commencer par le désir de prier, de prendre le moyen de la prière chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes, voyez, ne serait-ce que 5 minutes. Et puis, à partir de là, les jours suivants, ce sera peut-être 6 minutes ou 7 minutes. Puis après, dans les journées suivantes, on se rendra compte que dans le fond, le Seigneur est présent pas simplement dans le temps de prière que j'aurais pris, mais tiens, il apparaît là au carrefour d'une route, dans le sens que je penserai à lui, ou bien dans telle personne rencontrée, je percevrai comme indirectement une présence qui habite cette personne, je découvrirai que tout le monde, ce monde dans lequel je vis, est habité, à condition de savoir découvrir précisément.
Et ça, en priant un petit peu tous les jours, petit à petit, ça peut transformer le regard qu'on a sur la réalité.
Bien sûr, on commence par un petit peu, et puis après, le petit peu nous donne le goût, justement, d'aller plus loin. Et précisément, c'est un conseil que disait Marthe à quelqu'un qui l'a rencontré. Comment faire pour rencontrer davantage le Seigneur? Et puis, elle disait, commencez par prier 5 minutes par jour. Vous voyez, 5 minutes, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Et notre vie quotidienne est happée par une multitude de choses qui n'ont aucune importance, parfois. Voyez, alors, il y a des choses importantes, bien sûr, mais on se laisse prendre, on remplit notre agenda, parfois, de futilité et de banalité. Si nous prenions 5 minutes pour retourner à l'essentiel, à partir de là, on découvrira que, eh bien, il y a précisément quelque chose d'essentiel dans notre vie.
Donc le conseil est entendu, et évidemment on peut aussi prendre des temps plus conséquents de prière en venant en effet en retraite, entre autres au foyer de charité Notre-Dame de la Cépède. Pour finir peut-être, est-ce qu'on pourrait parler de la question de la souffrance ? Parce qu'on sait qu'on a un certain nombre d'auditeurs qui parfois ont des vies difficiles, qui sont touchés par la maladie, par la solitude, et peut-être y en a-t-il un certain nombre qui nous écoutent actuellement. Marthe Robin, qui elle a été malade dès son enfance, dès sa jeunesse, et on va dire gravement. Comment leur prendre la main à toutes ces personnes, et peut-être avec l'aide de Marthe Robin, les aider à entrer dans quelque chose de plus profond. C'est probablement maladroit de dire ça, mais qu'est-ce que vous leur diriez?
La souffrance est un mystère, hein, ça c'est clair. Et chaque fois que Jésus a rencontré la souffrance dans l'Évangile, il a tout fait pour la soulager. C'est vraiment. Hein. Marthe a tout fait pour guérir aussi, pour être soulagée de cette souffrance. Alors ce mal était difficilement définissable, puisque les médecins avaient posé un mauvais diagnostic. Bon, et il n'empêche que Marthe a offert sa vie et ses difficultés à ce moment-là, et c'est là où elle a trouvé sens à sa vie. Alors j'ai envie de dire que lorsqu'on rencontre des difficultés, des fardeaux, découvrir que Jésus ne nous laisse pas seuls, c'est l'expérience de...
Alors comment on fait pour découvrir que Jésus ne nous laisse pas seuls? Pendant 5 minutes tous les jours, on lui dit montre-moi que je ne suis pas seul, je ne sais pas...
Ça peut commencer par là, tout à fait. Exactement, Seigneur, tu es là. S'adresser, lui dire montre-moi que je ne suis pas seul, on entre dans une relation, voyez. En disant ça, on entre dans une relation. C'est-à-dire qu'on prend conscience que, eh bien, il est là à côté de nous. Et progressivement, on prendra conscience qu'il est dans notre vie et qu'il nous rejoint. On voit le nombre de personnes qui ploient sous le fardeau, qui ont des difficultés. Combien elles ont pu être soulagées en découvrant que Jésus les rejoint là. Vous voyez, la Vierge Marie aussi. Nous allons à Lourdes. Que de malades à Lourdes, voyez, et que de malades qui sont consolés, parfois guéris aussi par la grâce du Seigneur, ça peut arriver, hein, mais qui sont consolés, en tout cas, on ne revient pas indemne d'une rencontre avec le Seigneur, ou, en l'occurrence à Lourdes, avec la Vierge Marie qui nous propulse dans les bras du Seigneur.
Eh ben merci beaucoup, Père Dominique Bostin, d'être venu nous parler de Marthe Robin en ce début de l'Avent 2016. Je rappelle le titre de l'ouvrage qui nous a servi de fil rouge, « Vie de Marthe Robin » de Bernard Pérousse aux éditions de l'Emmanuel, édition Foyer de Charité. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com. Voici l'homme. Le livre essentiel du père Bernard Sesboué est paru aux éditions Salvator. Il décrit le comportement humain de Jésus pour en montrer l'excellence unique. Jésus réalise parfaitement la vocation de l'homme et à travers l'homme, il se révèle comme le Fils de Dieu. Une synthèse extrêmement riche d'une vie au service de l'étude des évangiles.
Le dernier livre du père Sesboué, Jésus, voici l'homme, paru aux éditions Salvator, est disponible chez votre libraire.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
On a cru à plusieurs reprises que le monde était fixé. Or, il n'en est rien.
Il y a quand même des nouvelles encourageantes dans le système financier.
Une étude détaillée du satellite Encelade vient d'apporter une confirmation éclatante de la présence d'un océan liquide sous la croûte de glace gelée du satellite.
Il est incontestablement un cinéaste de talent.
Musique, théâtre, expositions sont à la une de cet agenda.
Nous avons tous un défi à relever, une mission à remplir. Allons-y et jusqu'au bout.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Vous écoutez Radio Présence, excellent début de semaine avec nous. Nous sommes lundi aujourd'hui et il est 9h59 minutes. Ce week-end, Radio Présence vous a proposé son événement annuel, le grand radiodon de Radio Présence qui vous incite à soutenir votre radio chrétienne en Occitanie pour soutenir notre mission de radio et notamment de radio chrétienne. Et vous avez été très nombreux à répondre à cet appel. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Et si vous n'avez pas encore pu le faire, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour soutenir Radio Présence. Vous pouvez envoyer encore ce matin toutes vos promesses de dons par téléphone au 05 62 48 63 00.